Vous pouvez prendre place. Un grand merci aux musiciens de nous avoir conduits dans ces chants. Alors, contrairement à l'orateur de la semaine dernière, Florent Varac, je n'ai pas encore, en tout cas, un fils qui travaille pour le GIGN, ni le SWAT américain, mais j'ai un fils menuisier. Donc, je peux m'intéresser au travail en bois. Voici un escalier luxueux, célèbre même, apparemment dans le style de Louis XIV, tout en chêne massif, situé sous un magnifique dôme en verre, bien éclairé. Apparemment, il faut remarquer que l'horloge est particulièrement exquise. Des sculptures de chaque côté, qui représentent l'honneur et la gloire qui couronnent le temps. Magnifique, un escalier digne de Versailles. Vous savez sans doute que cet escalier se trouvait sur le Titanic. C'est celui qui donnait sur la salle de réception pour les passagers de première classe, une somptueuse salle de réception. Ce matin, nous allons aussi regarder un moment dans l'histoire d'Israël couronné de gloire et d'honneur, tout en étant sensible au fait que nous sommes à la veille du naufrage, à la veille du crash de ce royaume, de ce règne de Salomon. Nous allons pouvoir pourtant admirer la qualité de l'œuvre de Dieu. Donc je vous invite à chercher avec moi 1 Roi, chapitre 10. Un temps, un moment dans l'histoire d'Israël couronné de gloire et d'honneur. Je vous lis versets 1 à 13. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent la sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël, qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, et des pierres précieuses. Il ne vint plus d'autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Et un petit mot de conclusion là en versets 23 à 25. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Voilà, dans un sens, un roi 10 représente le sommet de l'Ancien Testament. Alors, me connaissant, je suis capable de dire ça de plusieurs passages de l'Ancien Testament, parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont beaux. Mais c'est quand même, on va dire, le meilleur moment dans l'histoire d'Israël. C'est le moment où le royaume était à son apogée, le plus glorieux. Le texte lui-même parle en superlatif, hein, verset 12, au sujet de la menuiserie, justement. On n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Verset 20, on n'a pas lu la description du trône de Salomon, mais verset 20 et 23, en parlant de son trône avait 14 lions de chaque côté, de taille réelle peut-être, mais couverts d'or. Donc c'était, et on décrit, et le verset 23 dit, 20, il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Et verset 23 que nous avons lu, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Donc oui, c'est vraiment l'apogée du royaume d'Israël. C'est le 1812 sous Napoléon pour la France. Et une scène en particulier va servir pour illustrer le sommet de cette grandeur, de cette gloire. C'est la visite d'une grande dame, la reine de Séba, que Jésus appelle la reine du Midi. Alors c'est intéressant, cette rencontre qui se trouve au sommet de l'Ancien Testament devrait nous intéresser. Et surtout que Jésus a spécifiquement fait allusion à cette histoire pour l'appliquer dans la vie de ses auditeurs, de nos vies. La réflexion de Jésus, c'est si la reine de Séba est allée voir la sagesse de Salomon, combien plus nous devons faire l'effort de comprendre la gloire et la sagesse de Jésus-Christ. Lui dont le royaume ne fera jamais naufrage. Et donc ce matin, nous allons voir un peu comment la reine du Midi témoigne, sert à la gloire, sert à témoigner de la gloire du roi et nous entraîne aussi à venir voir Jésus-Christ. Donc nous allons voir toi réflexion. Toute étrangère qu'elle est, elle vient de loin et rend gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ensuite, nous allons voir que toute reine majestueuse qu'elle est, elle est époustouflée par la splendeur du roi. Et enfin, toute richissime qu'elle est, elle repart encore plus riche. Donc, commençons avec cette première réflexion. Toute étrangère qu'elle est, elle vient de loin pour et rend gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, le verset 1 parle de la reine de Séba. Alors, c'est quoi ce pays, ce royaume de Séba? C'est où? Eh bien, on peut savoir que le royaume de Séba, c'est un royaume dans le sud de l'Arabie. Actuellement, ce serait situé dans le pays du Yémen. Yémen qui vient dans les actualités en ce moment, hein, avec les outils. Mais voilà, le Yémen, elle était reine de ce royaume. Mais à l'époque, le royaume de Séba ou de Saba couvrait encore plus de territoire. Donc ça dépassait même la mer. Ça couvrait des parties de l'Éthiopie, de l'Érythrée. Donc elle va faire, si on calcule, elle va faire un voyage de 3500 km pour voir le roi d'Israël, ce qui est déjà impressionnant à l'époque sans internet, sans avion. C'est pour ça que Jésus peut dire elle vient des extrémités de la terre, puisqu'à l'époque, voilà, ça représentait un très grand voyage. Sa démarche est noble. Elle entend parler d'un roi avec une grande renommée. Et au lieu de dire, oula, c'est peut-être une menace contre moi et mon royaume, au lieu de dire, je vais faire la guerre contre lui, au lieu de dire, bon, c'est un étranger, il a sa religion, j'ai la mienne, je reste chez moi, il reste chez lui. Non, elle fait le déplacement, donc avec cette grande caravane de chameaux, tout ça, pour vérifier la renommée de Salomon de ses yeux. Cette renommée qui, selon le verset 1, est à la gloire de l'Éternel. Verset 1, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Donc, ce qu'elle va faire, ce serait quand même à la gloire, pas tant de Salomon, mais de l'Éternel. Et quand elle arrive, elle voit tout, sa réaction est très belle. Toute étrangère qu'elle est, elle prononce presque cette confession de foi, en tout cas, cette que je crois être presque la phrase clé du livre des rois, verset 9, elle dit, après avoir vu tout ça, elle dit « Béni soit l'Éternel, ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. C'est ce que le peuple, les premiers lecteurs, avaient besoin d'entendre aussi. L'Éternel aime à toujours son peuple. Et ce qu'elle dit, c'est très pertinent. Elle ne dit pas, bon, l'Éternel a été gentil avec toi, Salomon. L'Éternel aime son peuple, et parce qu'il aime son peuple, il leur a donné un si bon roi. Elle sait que l'amour de Dieu pour son peuple, c'est de leur donner un roi bon, sage et juste. Elle rend gloire à l'Éternel, à Yahweh, au Dieu d'Israël, et elle témoigne de son amour pour son peuple. Tout cela de la bouche d'une arabe. Et ça, c'est ça qui est fort. C'est fort que le sommet de l'Ancien Testament, l'histoire, l'épisode au sommet de l'Ancien Testament inclut une étrangère et c'est elle qui témoigne de la vérité centrale de ce livre. Dieu aime son peuple et il veut leur donner un bon roi. Et quelque part, cette scène où la reine de Séba vient de loin pour rendre gloire au roi d'Israël et à son Dieu, cette scène devient, on va dire, programmatique du projet de Dieu dans toute la Bible. Et on découvre que oui, le roi choisi par Dieu, le fils de David, lui, il veut attirer, accueillir, il veut recevoir un hommage des gens de toute nation, des gens des extrémités de la terre. Et cette visite de la reine de Séba, elle est reproduite en quelque sorte par les rois mages perses. Ces sages qui viennent de loin pour de la sorte, un peu de la même manière, avec des chameaux peut-être, avec des aromates, c'est sûr. Et eux, ils viennent voir le roi qui naît en Israël et ils font hommage. Donc cette scène est reproduite là, cette scène est reproduite plus tard par nous ce matin, par les nations qui viennent à Jésus-Christ, les Argentins, les Brésiliens, les Américains, même les sudistes, même les gens midi-pyrénées qui viennent à Jésus-Christ, touchés par sa renommée et convaincus par le fait que oui, Dieu nous aime, parce que Dieu nous aime, il nous donne un roi tel que Jésus. Mais elle va servir de témoin dans toute la Bible. Et un jour, elle dira aux gens, c'est l'application que fait Jésus, elle pourra se lever un jour en disant, moi je suis venu, géographiquement, culturellement, je suis venu de très loin et j'ai rencontré la source de sagesse. J'ai vu la preuve de l'amour de Dieu envers ce monde. Moi je suis venu de très loin. Et vous, est-ce que vous avez fait le déplacement pour voir un roi encore plus glorieux? Vous qui avez peut-être plus d'accès à la personne de Jésus, à sa parole, à sa sagesse, c'était assez facile pour vous d'avoir accès. Et vous ne vous êtes pas intéressé, je ne comprends pas, pourrait dire la reine de Séba. Alors oui, toute étrangère qu'elle est, elle vient de loin et rend gloire à l'Éternel, Dieu d'Israël. Et ça lance aussi un peu tout le projet missionnaire qu'on va trouver dans la suite de la Bible. Ensuite, nous voyons que toute reine majestueuse qu'elle est, elle est époustouflée par la splendeur du roi. Verset 5, c'est beau cette phrase. Elle voit tout l'entourage du roi, elle voit le roi, toute son expérience, toute cette visite d'État, elle est impressionnée. Le verset dit que même elle en eut le souffle coupé. Elle est époustouflée. Et pourtant, ce n'est pas n'importe qui, c'est la reine de Saba. C'est une chose pour quelqu'un qui a grandi dans les quartiers, dans les bidonvilles. C'est une chose pour cette personne d'être émerveillée par la cabine de première classe du dernier Airbus. Mais pour époustoufler les émirs de Dubaï, il faut que Airbus travaille un peu plus sur la décoration. C'est peut-être votre travail, je ne sais pas. Bon courage. Quand la délégation des Émirats vienne pour examiner leur Airbus. Même chose ici, c'est C'est pas n'importe qui arrive, c'est la reine de Séba elle-même. Dans son domaine, elle a été habituée au luxe, à la gloire. J'imagine que ce n'est pas quelqu'un qui est facilement époustouflé par tel ou tel objet, aspect. Elle-même arrive avec une suite fort nombreuse, dit le verset. Elle arrive à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Donc, déjà, il y a son cortège à elle est glorieux, époustouflant presque. Elle est habituée à gérer un grand royaume. Je pense qu'elle-même a une certaine sagesse, une certaine intelligence. Et pourtant, elle est bouche bée, elle est époustouflée devant le roi Salomon. Et regardez ce qui suscite son admiration, tout d'abord. La sagesse de Salomon, chose dont nous avons déjà parlé un peu dans ce livre, la sagesse de Salomon, mais c'est mentionné maintes reprises, verset 4. La reine de Séba vit toute ta sagesse. Verset 6. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta sagesse. Verset 7. Tu as plus de sagesse que la renommée ne m'a fait connaître. Verset 8. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Donc voilà, la sagesse l'impressionne. Cela de la part d'une dame, comme je disais, certainement très intelligente, qui est venue avec des questions difficiles. Je ne sais pas quel ordre c'est des questions. Est-ce que des questions politiques, des questions existentielles, des questions... Mais on peut comprendre que oui, les questions qu'elle pouvait avoir devaient être des questions complexes, comme on peut voir dans la gestion des affaires de ce monde, il y a des questions complexes. Et verset 3 dit, il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. Impressionnant. Et je vous rappelle ce matin que quantité de personnes ont trouvé la même expérience en venant à Jésus. Oui, il offre les meilleures réponses aux grandes questions de la vie. Jésus, face à son entourage, qui venait souvent avec des questions difficiles, des questions pièges, il avait toujours la bonne réponse. On n'a jamais proposé à ce que Jésus aurait dû dire, parce que sa réponse était toujours la meilleure. Et encore ce matin, Jésus n'a pas peur de vos questions difficiles. Il n'a pas peur de vous aider à traverser les énigmes de la vie, les situations complexes. Les grands philosophes de ce monde ont trouvé en lui une sagesse sans égale, une sagesse admirable. Cette semaine, j'écoutais un podcast. C'était Henri Blocher, un grand théologien, qui citait le philosophe français André Comte Sponville, qui lui parlait du philosophe français Pascal. Donc Sponville dit de Pascal, c'est pour moi le plus grand génie français. Je me définis volontiers comme un pascalien athée, mais au fond, tout livre que j'ai écrit, c'était pour échapper à Pascal, notamment sa foi. Et Pascal, lui, donc, celui dont on dit il est le plus grand génie français, lui, a trouvé en Jésus une sagesse plus grande que celle des philosophes et des savants. C'était sa fameuse confession, Jésus. Dieu, non des philosophes et des savants. Donc quand les grands de ce monde, les grands sages, les grands théologiens, les grands philosophes qui sont bien plus intelligents que moi, quand eux trouvent une sagesse sans égale en Jésus, ça nous interpelle, ça. Nous, on est un peu sans excuse quand on dit « Ah oui, Jésus, ça ne m'intéresse pas » ou « Je ne trouve pas des réponses ». Peut-être on n'a pas fait l'effort de poser des questions et d'écouter ces réponses. Je trouve admirable l'intégrité de la reine de Séba. Elle ne vient pas dans une attitude de jalousie, voilà, ou de concurrence, ou... elle vient même, l'entourage de Jésus, c'était juste pour le piéger. Mais elle vient avec une certaine intégrité, un désir de comprendre. Elle repart émerveillée par la sagesse de Salomon. L'autre chose qui la frappe, qui coupe le souffle, c'est la situation des serviteurs de Salomon. Elle est admirative des privilèges de ses serviteurs. Versets 4 et 5, elle voit... la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs, les fonctions, les vêtements de ceux qui le servaient, ses échansons. Donc, ses serviteurs, c'est à la gloire un peu du roi, c'est que le roi est, mais plus le roi est riche, plus ses serviteurs peuvent avoir des privilèges. Donc, elle constate que ce qu'ils mangent, les serviteurs, c'est impressionnant. Leur logement de fonction, c'est impressionnant. Leurs habits de fonction, c'est impressionnant. Leurs tâches, leurs fonctions, c'est incroyable. Et donc, elle conclut, verset 8, « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. » Et nous, ne pouvons-nous pas dire mieux des serviteurs de Jésus, des serviteurs que vous êtes? Nous avons d'ores et déjà une nourriture spirituelle. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Il nous nourrit. Ce que nous vivons à travers les psaumes, à travers l'écoute de sa parole. Nous avons une maison spirituelle dont parlait Lucas, une famille. Cette maison, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est l'Église. Nous trouvons en lui quelque chose d'encore plus glorieux que le temple de Salomon. Nos habits sont merveilleux, pas ce que nous voyons, mais les habits de justice, les habits que Jésus, dont Jésus nous couvre, le vêtement, les nouveaux habits que nous recevons par la foi en Jésus-Christ, où il nous couvre de sa beauté, de sa perfection, de sa justice. Nous avons des rôles, des fonctions glorieuses dans son Église. Et même hier, quand on compare avec d'autres religions, des fois les gens, quand ils servent, mais toujours dans la peur, dans la crainte, je sers pour qu'un jour Dieu, peut-être, pourrait me recevoir dans sa maison. Mais ce n'est pas le cas des serviteurs de Jésus-Christ. Nous servons avec des grands privilèges. Nous servons avec amour, nous servons avec reconnaissance. Nous avons des tâches qui permettent de vivre l'amour les uns envers les autres. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui, et un jour, cela va atteindre un niveau de gloire parfait, hein, ce que nous décrit le dernier livre de la Bible. Mais une des dernières scènes, c'est le roi Jésus assis sur son trône, cet agneau, et autour de lui, ça dit que ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ça, c'est le programme pour l'éternité, et c'est époustouflant de pouvoir contempler Jésus, entendre sa sagesse, et le voir éternellement. Quel privilège, et ce serait à sa gloire. Heureux tes serviteurs, heureux les gens qui sont continuellement devant ta face. Donc elle-même, grande reine qu'elle est, elle est époustouflée par la gloire du roi. Alors nous, peut-être on n'a pas son niveau de vie, mais nous pouvons aussi être émerveillés en regardant ce que Jésus nous offre, en écoutant sa sagesse. Et enfin, toute richissime qu'elle est, elle repart encore plus riche et comblée. Le texte mentionne à plusieurs reprises toute la richesse qu'elle a apportée en don au roi Salomon. Verset 2 parle des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Verset 10 mentionne un peu la même chose. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Vous savez, le royaume de Séba était situé au carrefour du commerce international. Encore aujourd'hui, ces endroits comme le Yémen, les Émirats, voient passer un commerce important. C'est pour ça que le piratage est un problème. Que c'est 30 ou 40% du commerce maritime qui passe par la mer Rouge, là, et tout le pétrole. Donc elle aussi, oui, effectivement, ça ouvre sur plusieurs régions du monde. Donc ce royaume peut s'enrichir à travers ces choses. Et elle apporte cette richesse qu'elle donne librement à Salomon, juste pour rendre hommage à sa gloire. Non seulement une richesse financière, mais une certaine richesse culturelle. Quand il s'agit d'aromates, je trouve que c'est intéressant qu'on souligne ce détail, qu'elle apporte beaucoup d'épices, d'aromates. C'est vrai qu'en cuisine, on voit bien que chaque culture a ses propres épices. Et des fois, dans un pays, on a du mal à se procurer les épices d'un autre pays. pour rendre le plat vraiment authentique. Mais ces épices, ces aromates qui donnent la particularité, la richesse de chaque plat. Donc en apportant ces aromates, elle apporte certaines richesses culturelles à Salomon, à sa cuisine. Mais c'est une manière de dire que les spécialités de chaque culture contribuent ici à la gloire de Salomon. Mais c'est ce que nous vivons de manière plus dans l'Église de Jésus-Christ. Chacun ici est une richesse. Chacun est ici est en soi un parfum, un aromate qui enrichit le saveur du royaume de Jésus-Christ. Chacun ici a une spécialité, un don à apporter pour embellir le royaume de Jésus-Christ, ce que vous êtes. Non pas que Salomon avait besoin de cette richesse, c'est ça le comble. Et ça dit qu'elle apporte 120 talents d'or. C'est une quantité immense. Mais on vient d'apprendre à la fin de chapitre 9 que Salomon avec son collègue, ils sont allés voir en Ophir, ils y prirent de l'or, 420 talents. Donc ils viennent de ramener 420 talents dans son royaume. Et on apprend un autre verset dans ce chapitre que chaque année, 666 talents d'or arrivent dans son royaume. Donc, l'or qu'apporte la reine de Séba, c'est une quantité immense, mais il a déjà une quantité immense. Donc finalement, ce n'est pas la reine de Séba qui enrichit Salomon, c'est plutôt Salomon qui enrichit la reine de Séba, comme le dit verset 13 à la fin de la visite, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, tout ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Alors les présents dignes d'un roi tel que Salomon devaient, elle est repartie peut-être plus de ce qu'elle avait apporté. Et nous vivons quelque chose de plus grand avec Jésus. Nous lui apportons nos vies, nos cœurs, nos richesses culturelles, nos voix, comme nous chantons, non pas parce qu'il a besoin, non pas parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il en est digne. Et puis, nous repartons encore plus enrichis de ses dons, de ses trésors. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous comble, c'est lui qui nous offre toutes ces richesses glorieuses en Christ. Est-ce que vous pouvez vivre cette expérience encore ce matin? Donnez le meilleur de vous à Christ, pas pour négocier quelque chose en retour, mais par amour, parce qu'il est digne, parce que vous êtes époustouflé, émerveillé par sa bonté, son amour, sa gloire, sa sagesse, un peu comme a fait la reine de Séba, et vous serez comblé en retour, vous repartirez encore plus riche. Le psaume que nous avons lu récemment disait, voilà, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et donc, elle repart, enrichie et comblée de cette visite, comme nous pouvons le faire lorsque nous apportons nos vies, notre richesse à Jésus-Christ. Donc, voilà l'histoire au sommet de l'Ancien Testament, cette reine de Séba qui témoigne de la gloire de Salomon et Jésus qui dit, pensez à elle. Un jour, elle va pouvoir nous demander, et vous, c'était quoi votre excuse de ne pas venir à Christ? Si vous dites, ah, j'étais trop loin, elle dit, mais non, moi j'ai fait 3000 bornes pour voir seulement. Ah oui, mais Christ ne m'a pas vraiment impressionné, mais elle, moi, j'étais au sommet d'un royaume, et moi j'ai vu quelque chose de bien plus grand que moi. Mais vous savez, dans tout ça, les premiers lecteurs, ils lisent ça et ils doivent constater la gloire, la grandeur du royaume de Salomon, mais quand ils le lisent, il ne reste plus rien. Un peu comme l'escalier du Titanic. On ne l'a pas, il ne reste plus rien. Même les images viennent d'autres paquebots, d'autres navires qui avaient basé sur le même modèle. Le royaume de Salomon connaîtra le même sort. Dès le chapitre prochain, ça va commencer, le naufrage. Alors, tout cet or, tout ce trône, tous ces aromates, toutes ces pierres précieuses, ce bois de santal, tout va cramer. Tout sera disparu quand ils commencent à lire ces textes. Les premiers lecteurs le savent. Et donc, eux, ils doivent vivre avec une nostalgie terrible. Est-ce qu'un jour, on va retrouver ce niveau de gloire et de renommée et de réussite dans un royaume, parce que là, on la voit plus. Et maintenant, les nations étrangères se moquent de nous. Au lieu de nous rendre visite et témoigner de la gloire, on est un objet d'opprobre pour les nations. Alors, cette scène cultive une soif, une nostalgie. Est-ce qu'un jour, le royaume va retrouver sa splendeur encore plus grande? Et la réponse que Jésus donne, c'est oui. En moi, ce royaume, cette gloire est rétablie. Et un jour, notamment quand il revient, ce sera à son comble. Et quelque part, c'est ce que nous voulons aussi. Nous voyons cette richesse, nous voyons cette gloire comme cet escalier, nous trouvons c'est merveilleux. Mais sachant que le naufrage juste après, il y a un petit bémol sur la qualité de cet escalier. Ou toute cette gloire que nous voyons ici, on veut quelque chose qui est plus durable finalement. Mais en Christ, nous avons l'accès à cette renommée, à cette gloire, à cette sagesse. Et en Christ, sans le naufrage, parce que lui, il est allé, il a connu à notre place le jugement, l'exil, le naufrage spirituel de nos vies, il a pris sur lui. Et ensuite, il ressuscite. Et par sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour prochain, il nous fait entrer dans un royaume glorieux. Alors oui, prenons exemple sur la reine du Midi. Venons et contemplons la sagesse, la gloire de Jésus-Christ et offrons-lui le meilleur de nous-mêmes. Et vous verrez que vous serez enrichis et comblés en retour. Prions pour terminer. Seigneur, nous ne voulons pas qu'il soit dit de nous qu'on a été indifférent face à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que la reine de Séba se lève un jour pour nous accuser et nous reprocher n'être pas venu voir la sagesse et la gloire de Jésus-Christ. Je te prie pour tous ceux ici ce matin qui peuvent être en recherche spirituelle, qui se demandent, qui ont des questions difficiles, des énigmes à résoudre, qui traversent des situations complexes. Nous te prions je te prie qu'ils fassent la démarche de venir à Jésus-Christ, de lui poser leurs questions, d'entendre ses réponses dans sa parole, de méditer ces choses et de repartir avec impressionné de la pertinence de la vérité. Je te prie pour nous tous qui faisons partie de sa maison, qui sommes ses serviteurs. Réjouis-nous ce matin de savoir qu'on a une situation si privilégiée. Tu nous as fait serviteurs du meilleur roi. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as donné un roi comme Jésus, qui est si, si bon, si fidèle, si sage, si doux, si humble et si permanent. Nous savons que Jésus et son royaume ne fera jamais naufrage. Alors nous pouvons construire nos vies autour de lui et de sa vérité. Merci pour ces moments que nous vivons ensemble chaque dimanche, que nous repartions avec reconnaissance, motivés pour vivre à notre niveau cette vision, cette mission d'être lumière du monde pour rayonner la gloire de Jésus-Christ. Nous prions en son nom. Amen. Si vous voulez savoir plus sur la foi chrétienne ou si vous avez un fardeau, un besoin, il y a une équipe de prière qui vous attend dans la salle de prière. Ils peuvent vous accompagner. Sinon, nous allons terminer avec un cantique tous ensemble. Je vous invite à vous lever pour célébrer ce trône encore plus glorieux que celui de Salomon, où nous sommes tous accueillis pour chanter la gloire du bon berger.